Sport Plus.
Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio Plus, au cœur de votre émission Sport Plus, l'émission qui vous parle de sport tous les lundis, vous le savez, entre 18h et 20h, et on était justement à la fin de la première heure en interview avec Monsieur Stéphane Bijard, l'auteur du livre De l'ombre à la lumière du Nord, voilà, qui retrace l'année du titre du Racing Club de Lens. Et ben, on va tout de suite continuer cette interview avec Henri aux commandes.
Alors on arrive presque à l'apothéose, hein, ce qui est... Je pense que la date, c'est 5 mai, hein. 5 mai 1998, hein. Ouais. Là-bas à Auxerre, hein, où ça se passe. Bon, ça n'a pas été simple.
Est-ce que vous y étiez à Auxerre?
Ah non, j'étais au stade à 3h du matin.
Mais vous n'étiez pas au déplacement à Auxerre.
Vous y étiez, vous.
Hein. Bah oui, j'étais.
Vous étiez. Alors, c'est vrai que, bon, allez. Quand même, on va citer qu'on se mettait au vert, disons, pas loin d'ici, ouais. À la Chartreuse.
À la Chartreuse,
hein,
exactement.
Hein, on en parle.
Ouais,
hein,
ouais.
Hein, voilà, exactement.
Le Salon Ovale.
Le Salon Ovale.
Pour ceux qui veulent aller le voir, il existe toujours.
Alors, c'est vrai qu'il y avait... voilà, et après...
Il n'y a pas de mise au vert, là, à Auxerre.
Non, il y a l'anecdote également, pourquoi on perd à Paris, parce qu'on n'y va pas la veille.
Alors ça, c'est... Ça, c'est, et ça va nous servir de leçon d'ailleurs pour la suite, pour la Coupe d'Europe, les années suivantes. Parce que, pour resituer aussi dans les gens, 98, c'est l'année de la Coupe du Monde. Avec le Stade de France. Et le Stade de France, qui a été une construction incroyable, le plus grand stade de France, 80 000 personnes, avec cette énorme baignoire très ouverte comme ça. Et il y avait juste, quand nous, on y va pour la finale, donc... Coupe de la Ligue, non, Coupe de France. Oui, c'est Coupe de la Ligue qu'on avait perdu à Paris. Coupe de France, on s'était longtemps posé la question, avant le match, est-ce qu'on va avant, est-ce qu'on va après, est-ce qu'on part le jour même, enfin bon, il y a toute une hypothèse comme ça. Et moi, j'étais persuadé qu'il fallait qu'on y aille avant parce que c'était nouveau, quoi. Bon. Et Daniel, en même temps, il me dit... ouais, mais on a nos habitudes, on a nos repères, nos gammes, justement, nos partitions. Et on ne change pas nos bonnes habitudes, donc on part le matin, quoi. OK. Et puis, il en parle au capitaine et il décide tout. Bon, OK, on part le matin. Sauf que quand on est arrivé au Stade de France, à l'époque, on a pris une... Je me souviens, c'était la Coupe Gambardella, la finale de la Coupe Gambardella qui se jouait à 15h de l'après-midi. On arrive dans ce stade, c'était Saint-Étienne-Paris, je crois, en Coupe Gambardella. Et les jeunes... Et là, on regarde, et là, on était comme ça, vous voyez, avec les yeux d'enfant. Parce qu'un stade comme ça, en Europe, il n'y en avait pas, quoi. Enfin, moderne, beau, nouveau. Et on était admiratif. On ne regardait pas le match, on regardait le stade. Sauf que de 15h de l'après-midi jusqu'à 21h30, les joueurs, ils ont regardé le stade. Ça veut dire qu'avant... Et la chance qu'avait eu Paris, c'est qu'à Paris, ils avaient été 15 jours plus tôt en finale... de la Coupe de la Ligue, qu'ils ont gagné. Donc eux, ils avaient découvert déjà le stade. Ils avaient même fait un match dedans. Et d'ailleurs, ça avait été le premier match de l'histoire officielle, ça a été ce match-là. Il y a eu des matchs officieux avec les joueurs de l'équipe de France, etc. Mais match officiel, c'est le premier. Donc le deuxième match officiel, c'est cette finale-là. Et eux, ils ont déjà joué. Ce qui fait que, vous vous souvenez de la première mi-temps, on voit rien, quoi. Les Parisiens, eux, ils jouent leur truc, et puis, nous, on est à la fois en train de regarder les joueurs, le jeu, le stade, le public, sachant que le public, il y avait 40 000 spectateurs l'an soir. Enfin, c'était un truc de malade, c'était 100, enfin, voilà. Et je me souviens, c'était le temps que les... ce qui a été drôle, c'est que je pense que si le match avait duré un quart d'heure de plus, on gagnait. Ça, c'est le supporter qui parle, mais parce que quelque part on voit bien qu'au fur et à mesure que le match avance, les joueurs commencent à prendre possession des lieux, se rendent compte de là où ils sont et ils commencent à jouer vraiment, sauf qu'il est trop tard. Voilà. Il est trop tard et donc on a perdu. Et ce qui fait que pour tous les matchs qu'on va jouer l'année suivante en Champions League, on arrivait deux jours avant. Quand on a joué Wembley, pareil, parce que quand vous arrivez au Bayern, quand vous arrivez à Wembley, quand vous arrivez au Celta Vigo, quand vous arrivez, enfin, peu importe où vous allez, il faut se mettre dans l'ambiance du lieu. respirer la taille du terrain, l'atmosphère, la culture, l'état d'esprit, au-delà de la fatigue, c'est vraiment... Ça a été une leçon. Et ça nous a été utile après, quoi. Mmh. Mais là, on était béotien, on ne savait pas. Et moi non plus. Et si j'avais connu le foot, peut-être je l'aurais fait. Mais comme j'étais un béotien en foot, j'ai pas assez insisté à l'époque. Et on s'en est tous voulu, quoi.
Il y a également des choses importantes dans le livre. On vit le Nord, on vit la mine. On était, disons, il y avait trois voyages, enfin trois découvertes de programmer. La première, c'était à
Leeward.
Leeward, hein, au musée de la mine, à Leeward. Hein. Donc, il y avait les mineurs à cette époque-là.
Ouais.
Et puis, il y avait la prison de Lens.
Ouais.
Et il y avait également, normalement, la Française de mécanique.
Exactement.
Mais ça s'est fait l'année suivante. Voilà. Et j'y étais, justement. Voilà. Alors, le musée, je le connais, hein, à Leeward, le musée de la mine, où c'est, on monte dans les grilles, puis allez, on descend qu'un étage, et bien on est au fond déjà.
Ça, on ne sait pas.
Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Alors, comment, justement, ça a créé des liens?
Alors, en fait, on est quand vous disiez tout à l'heure, à chaque fois, rechercher une solution. En fait, tout ça, c'est venu... c'était vraiment réfléchi au sens... À l'époque, je pense que l'équipe commence à avoir le melon, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est même le titre du chapitre où j'ai mis « Comment dégonfler les melons, quoi ». Mais c'est normal. Je veux dire, les journalistes sont là, on fait partie des trois meilleurs, on ne l'a jamais été. Donc, l'euphorie du public... des journalistes, de l'environnement, on va être champion, enfin, tout le monde nous parle. Bon. Sauf que là, je dis à Daniel, il faut qu'on fasse un truc, quoi. Et là, c'est pas sûr, on peut les engueuler, ça ne changera rien. Et moi, je lui dis, la seule manière de peut-être, c'est de les ramener à l'histoire. Leur montrer que d'où ils viennent, d'où vient le club, d'où vient le football lensois. Et c'est pour ça que je me dis, il faut qu'on trouve des sujets, des lieux où ils vont être amenés à la réalité, redeviens ce que tu es. Et c'est en réfléchissant à plusieurs, parce que l'idée, elle est venue à la fois de Daniel, de Serge aussi, à l'époque, qui était en lien avec tout ça. On disait, mais la mine, il faut commencer par là, quoi. Et c'est pour ça qu'on décide d'organiser on ne peut plus aller dans les mines, il n'y en a plus, mais il y a les Worlds, quoi, à côté. Donc, il faut qu'on y aille. Alors après, il y a une mise en scène qui a été mise autour. C'était juste pour créer un peu un événement, parce que c'était pour rigolo de le vivre comme ça. Mais je pense que l'effet escompté a été énorme, parce qu'on voit bien que tout ce que je dis, les mots là, c'est des mots justes. Hein, c'est ce qu'ils nous disent en sortant. Quand ils sortent de la mine, ils se disent « Waouh, on est quand même des privilégiés, quoi. Oh, on a quand même de la chance, parce que eux, t'as vu ce qu'ils faisaient, et puis machin. » Et puis c'est comme ça, c'est quand même... Et c'est nos supporters. Et ça a dégonflé les melons, quoi. Mmh. Et alors la prison, pareil, ça a été un deuxième effet qui se coule quelques semaines plus tard, qui a été aussi très marquant, parce que là, c'était... Et c'est pour ça aussi qu'on avait prévu de les emmener à l'époque. Mais la succession des matchs a fait qu'on n'avait pas le temps. Mmh. Donc on n'a pas pu. Mais du coup, l'année suivante, on a fait la Française des mécaniques, parce que là, c'était le monde industriel, des supporters qui sont là, etc. etc. Mais c'est pour... moi, je me souviens très, très bien, c'était... Popovic, entraîneur des Spurs de San Antonio au basket, et puis aussi le fameux grand entraîneur de Michael Jordan, quand même, comment s'appelle-t-il, qui a été propriétaire, enfin incroyable, qui disait toujours, faut aussi sortir les joueurs de leur environnement. Et peut-être leur parler du monde, de la philosophie, de peu importe. Parce que ça permet de se rendre compte de ce qui se passe autour, quoi.
Pour changer la routine.
Ouais, changer. Au-delà des routines, c'est changer d'univers. C'est en dehors du ballon et du carré vert, quoi. Parce que c'est vrai que... j'ai découvert ça à l'époque. Il n'y a pas plus routinier que la vie d'un joueur de foot, quand même. Hein. C'est une banalité sans nom, sans déconner. On peut les admirer, mais c'est quand même... le matin, je me lève, je vais à l'entraînement, s'il y en a deux, je y retourne, je rentre chez moi, je me repose, et c'est comme ça tous les jours. Et puis, il y a un match, je fais... Mais c'est quand même très...
carré.
Très carré, très fermé, surtout. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de place à faire autre chose, à rencontrer le monde. Enfin, donc, le fait de les
puis oxygéner... Puis, on les contraint qu'ils ne peuvent pas. Voilà.
Oui, mais c'est pas... Après, c'est pas une... Il y en a qui sont plus ou moins curieux, mais on rend... Et puis, en plus, on vous dit ce qu'on doit faire. Déjà, au centre de formation, tu fais ci, tu fais ça, tu t'habilles comme ça, tu dors à tel moment, tu manges à tel moment, tu manges ça, enfin... Et c'est leur vie quand même. Donc c'est très routinier, c'est très encadré, c'est très protégé. Ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on avait aussi, à l'époque, créé les fameux parrainages de joueurs avec des entreprises. J'en parle à un moment donné, parce que du coup, ça permet aussi aux joueurs de se rendre compte que bah, les sponsors, ce n'est pas que des sponsors, c'est des gens, c'est des hommes, des femmes. Et du coup, les joueurs allaient comme ça rencontrer des chefs d'entreprise et des salariés qui étaient des supporters. Aussi pour leur ouvrir voir ce qui se passe autour, quoi, tout simplement.
Et puis, on prévoit l'année du titre, on va jouer avec des champions. Voilà.
Ça, c'était le Graal, ça.
Voilà, c'est ça. Et puis, je pense que c'est l'année également des monstres foot. Émotion foot.
Émotion. Bah oui, le magasin Émotion foot, en forme de ballon. Alors qu'il va être fait bientôt, etc. Mais ça sort de cette époque-là, quand même. Oui, il y a tout un chapitre d'ailleurs où j'explique un petit peu là, mais là on n'est plus tout à fait dans le foot, on est dans la ce qui est important dans une entreprise, c'est donner du sens. Et ça se passe au mois de décembre où toute l'équipe dirigeante du club est réunie pour partager et réfléchir quel sera l'idéal du club dont on rêve, mais pas que dans le jeu. Les supporters, les partenaires, le stade la boutique, enfin parce que le foot, c'est pas que le tir à verre. Il y a tout ce qui se passe autour. C'est une vraie entreprise. Et c'est là que se crée l'idée d'avoir une vraie activité pour les supporters, avec les supporters et tout ce qui se vit. C'est plus simplement un autobus qui vend 3 maillots, quoi. C'est vivre avec une ambiance. Voilà, c'était extraordinaire quand même. Et l'ouverture d'Émotion Foot, ça, c'était quand même extraordinaire. Mais du coup, Émotion Foot, ça voulait dire quelque chose aussi. On va y vivre des émotions, quoi.
Voilà.
On va vivre des émotions dans ce stade.
Alors, on joue le titre, on avait quatre équipes. Hein, on avait Metz, il y avait Metz, il y avait Paris, il y avait Marseille, il y avait Lens. Hein, pour finir, schématiquement, et on est arrivé au 5 mai, le dernier match du championnat, où disons qu'un match nul suffisait.
Oui.
Ah, voilà.
Et ça commence mal.
Alors, comment vous l'avez vécu, ce match? Comment ça s'est passé, d'abord, l'approche du match, ce jour-là?
L'approche du match, ça s'est bien vécu, en fait, parce qu'on avait le sentiment d'avoir de tels... De telles fondations. Ouais, telles fondations solides que... En fait, c'était un match de plus à faire, quoi. Et c'était le dernier, mais bon, il n'y avait pas la pression du titre autant que ça. C'était, en tout cas, c'est ce qu'on avait essayé de sortir. On joue notre jeu, on sait sur quoi repose notre jeu, on sait ce qu'on a à faire. Et du coup, on n'est même pas parti la veille, il n'y a pas eu de mise au vert particulière. On est parti le matin, avec notre avion, etc. etc. Donc, il n'y a pas eu de pression particulière. Et j'allais dire, même pendant le match, on joue pas mal, on joue pas bien, on joue notre jeu. Bon... Sauf qu'on est bien à zéro. Je ne sais plus qui marque le but à Auxerre, je ne m'en souviens plus. Pourtant, il y a la pression en ce moment-là, parce qu'on n'est plus champion. Tout le monde est persuadé que de toute façon, ça va le faire. Quoi. Je ne sais pas pourquoi. Comme si on était porté par un flot, un truc. Et puis, voilà, le but de Yo, libérateur. Voilà, c'est bon. Bah, tu vois, on avait raison, ça l'a fait.
Ça l'a fait. Alors, justement, à la fin du match, quand même une très dure anecdote pour vous. Alors, vous étiez sur tout au bord, hein, voilà.
Ah bah, pour ceux qui connaissent le stade d'Auxerre, de toute façon, on ne peut pas être plus au bord du terrain. Hein. Vous avez la ligne de touche, le banc des supporters, enfin, le banc des entraîneurs, et juste derrière, donc si je tendais le bras, je pense que je touchais la tête de Giroud, parce qu'on était plus derrière ce banc-là, nous. Et au moment de la victoire finale, moi j'ai un malaise vagal, je tombe dans les vapes. Mais vraiment, et là, donc on me met trois claques, un supporter qui est à côté, d'Auxerre d'ailleurs, qui m'a dit mais vous avez gagné, tout va bien monsieur. Ouais.
Vous n'avez pas gagné, vous êtes titré.
D'abord il dit vous avez gagné, puis vous avez le titre. Et en ce moment-là, mais au moment du titre, en fait, je saute en l'air et je m'écroule. Bon, terminé. Malaise vagal. Et en fait, après, c'est une autre histoire. On est porté, parce que ce qui est extraordinaire, et c'est là où il faut revenir à la première rencontre avec Gervais. quand je lui dis, mais vous rêvez de quoi pour ce club? Et lui, il m'a pas dit gagner un titre, à l'époque. Il m'a dit, ce dont je rêve, c'est que les... Notre, parce qu'il faut savoir que Gervais est un enfant de mineur. Enfin, son père était ingénieur des mines, mais il a été au stade. Il avait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Enfin, toute sa vie était au stade avec ses frères et son père, quoi. Donc, lui, devenir président déjà de Lens, c'était presque une mission. Et puis, lui, il rêvait juste que c'était gagner quelque chose pour permettre aux Lensois d'être fiers. Fiers d'être Lensois. Fiers, c'était pas Zola, c'était pas la misère, c'était montrer qu'on était capable de gagner, de réussir quelque chose. Et quand il me dit ça, il me dit, ça se matérialise comment? Il me dit, mais imaginez, les gens qui sortent dans la rue, qui montent le drapeau Lensois et qui disent, on a gagné, on est les meilleurs, on est les plus forts, on est les champions de France. On va parler de nous de manière positive. Et c'était ça dont il rêvait. C'était pas le titre, c'était tout ce que ça allait pouvoir provoquer. Et au moment où on est champion, il va se passer exactement ce qu'il me dit au début, mais en vrai. C'est-à-dire que le rêve devient réalité. On passe de l'ombre à la lumière, mais vraiment. Avec un truc qui dépasse même l'imagination. Parce que le nombre encore de gens que je rencontre, bah, comme vous, mais comme d'autres, qui disent bah, « j'étais là à 3h du matin, j'étais là à l'aéroport, j'étais là quand ils ont bloqué l'autoroute A1, j'étais là... » enfin. Parce que quand même, à 3h du matin, se retrouver dans un stade à quasiment 35 000 spectateurs, juste pour faire bravo, on a gagné. Bon, avec monsieur Delulis qui était dans l'avion et qui ne voulait pas ouvrir le stade parce qu'il dit, ouais, mais quand même, mais en même temps, il fallait qu'on le fasse parce que ça sécurisait. Enfin, et ça a duré pendant, pas des semaines, mais des années. C'est ça qui est fou, c'est que pendant des années, les gens se disent, t'as vu, Lens peut faire quelque chose de grand et de beau, quoi. Et c'était ça la fierté de Gervais. Et je pense que ça, il l'a réussi.
Oui.
Donc chacun a réussi son projet. Et ce moment, il est juste... voilà, moi j'en ai... Ouais. Et puis dans l'esprit de Lens, hein, quand même, parce qu'avec le tracteur...
Le tracteur, la remorque urée.
Maintenant, c'est des bus avec 3 étages, machin. Là, c'était un tracteur, comme avec une benne. Enfin, c'était un truc. C'était même pas prévu, donc c'est quasiment improvisé dans la nuit, quoi.
Alors, comment vous avez fait fêter ça? D'abord, déjà à Auxerre.
Il y a 2-3 moments que je raconte, dont un qui est extraordinaire, c'est. Parce qu'il y a l'euphorie dans le vestiaire. Mais moi, je ne vais pas dans le vestiaire. Je suis, encore une fois, alors, en plus, le vestiaire de Lens, d'Auxerre, c'est simple. Hein. C'est quasiment un porte-cabine et on est dehors, le vestiaire est dedans. Enfin, mais je ne suis pas dans le vestiaire. Il y a toute cette euphorie. Ils se retrouvent dans la piscine à flotte, machin. Et à un moment donné, on se retrouve à 3, je ne sais pas pourquoi ni comment, avec Daniel et Gervais. Donc Denis et mes personnages. On se retrouve à 3, dehors, avec une chope en plastique et notre cigarette. Tous les 3. Mais à rien dire, juste à... voilà. Et là, on se regarde, on dit, on l'a fait. Et ça dure 15 secondes, ce moment-là. Parce que très vite, tout de suite, le monde arrive. Mais ce moment, presque comme si la vie s'arrête, on goûte à ça, et puis c'est reparti. Voilà. Ça, c'est des moments presque... béni qui ont été d'autres moments qu'on a vécu dans la saison, quoi, qu'on rêvait, on l'a fait, et voilà, donc c'est des... Et puis, ben, je sais pas comment traduire de moments comme ça, mais c'était tellement impossible, et c'est devenu tellement fort que... Beaucoup de gens me disent, à la fin du livre, ils pleurent. Pourtant c'est drôle, pourtant c'est gay, mais parce qu'il y a l'émotion, qu'ils revivent eux-mêmes des choses qu'ils ont vécues. Parce que le nom de... Ah ouais, moi je me souviens de ça, puis alors j'ai cette anecdote, puis l'autre... Moi, il y en a qui me racontent... vous savez, la victoire à Lens, c'est comme le 11 septembre, ou c'est comme le pied sur la lune, ou les gens se souviennent où ils étaient. Alors peut-être pas toute la France, mais tout le Nord. Où j'étais ce jour-là et qu'est-ce que je faisais. Et donc c'est des émotions... Indélébile.
Alors, pour terminer, c'est bizarre, l'équipe, c'était... De toute façon, allez, moi, je dis toujours au foot, la meilleure défense, c'est l'attaque. Ah, c'est moi, c'est... Voilà.
C'est votre philosophie.
Ah, c'est ma philosophie. Ça, de toute façon, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et c'est vrai. Indirectement, c'est vrai. Si on marque pas de but, voilà, on encaisse et puis on défend mal et puis voilà, l'affaire est faite. Donc, si on marque des buts, ben, ça, l'adversaire, il doit attaquer, ça libère et puis on, voilà, on en marque plus. Donc, alors, quels sont les joueurs, mis à part l'équipe, c'est tout à tout, les joueurs ben, qui se sont marqués le plus en la saison 97-98?
Alors, celui, moi, qui m'a marqué le plus, c'était, comment s'appelle-t-il, qui était milieu de terrain
Stéphane Ziani?
Non, pas Stéphane. Alors, Ziani, parce que c'était la mobilette, parce que c'était...
Marc Villafoué, alors.
Alors,
non plus.
Justement, c'est, en fait, c'est la chimie des trois. C'est Foué, mmh. Ziani et... Merde, c'est celui qui marque le plus, c'est genre, qui était un étranger, qui était international, qui était un des rares internationaux de l'équipe, d'ailleurs.
Antoine Doflac, Vladimir Smicer.
Vladimir Smicer,
ouais.
Vladimir Smicer.
Ouais.
Pour moi, c'est ce joueur, c'est l'âme de l'équipe. Mais vraiment. Parce que c'était un joueur d'une intelligence, d'une finesse, d'une... Lui, il n'est jamais monté dans l'euphorie. Lui, il n'est jamais descendu à terre. Il était d'une fiabilité et d'un... C'était le régulateur de l'équipe. Régulateur. Parce que il y a eu des coups de gueule énormes avec Foué, avec Ziani, avec Jean-Guy, avec, dans l'émotion. Et lui, il était toujours là. Et c'était un métronome. Enfin, souvenez-vous de... Mais pareil, on n'en parle pas. Ce n'est pas un des joueurs dont on parle le plus.
Non, non, non.
N'empêche que, vous pouvez regarder, je ne sais pas, je pense qu'il a été le plus longtemps, à part le gardien, je pense que c'est celui qui avait le plus de temps de jeu. Quoi. Mm-hmm. Vladi. Wow. Moi, j'ai adoré ce joueur-là. C'était vraiment... Mais à côté de ça, je pense qu'il faut pas... Ce qui a été extraordinaire dans cette aventure, c'est que ce n'est pas un joueur qui a marqué. Moi, je vous dis ça parce que ça, c'est l'affect personnel, mais c'est que c'était vraiment une victoire collective. Vraiment. Il n'y avait pas... La preuve, c'est qu'il fait... S'il y en a qui commence à jouer la star, il va vite se faire ramener parce que c'était... Il y avait une osmose incroyable avec des joueurs issus du centre de formation qui ont un passé ensemble. Avec des greffes qui ont été magnifiques, Anto, Stéphane, qui sont arrivés en début de championnat. Mais cette alchimie, elle a pris, quoi. Et il y avait une osmose, une force, où chacun savait. Et je pense que c'est ça qu'on a pu faire, entre guillemets, avec Daniel. Et en tout cas, c'est la force d'avoir. C'est Daniel qui a su l'orchestrer. C'est que chacun savait ce qu'il pouvait apporter au collectif. C'est comme un orchestre. Chaque instrument est indispensable pour jouer la symphonie. Par contre, il savait comment il allait la porter, à quel moment il allait la porter et pourquoi il la portait. Et c'est, ça a été ça, cette alchimie incroyablement forte. Mais par contre, pour que ça se fasse, il fallait protéger l'équipe sportive. Il faut éviter que des gens de l'extérieur puissent intervenir, etc., etc. Et ça va très vite avec les agents, les journalistes, l'environnement, etc. Mais du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est... Parce que sans blague, sur le terrain... Quand vous regardez la feuille de match en début de saison, c'est pas possible qu'on soit champion. Franchement. Par rapport à des grandes équipes, souvenez-vous Monaco à l'époque. Hein. Monaco, c'est quand même Henri, Trezeguet, enfin, c'est ces joueurs-là quand même hein, qui sont à Monaco. Un rien quand même, des petits mecs. Paris, c'est la même chose. Enfin, c'était, vous aviez comme ça des équipes qui étaient waouh, quoi, largement. Mais l'osmose, la dynamique, la philosophie, le lien. Et le lien avec le public, le lien au sein du club. On a eu, moi je dis qu'on a eu une chance extraordinaire, c'est que cette osmose se fasse aussi bien partout. Pourquoi je dis ça? Parce que les années suivantes, on aura peut-être des petits accros qui se mettront à droite, à gauche, etc. etc. Et c'est ça qui a été l'alchimie extraordinaire.
Dans la durée.
Dans la durée d'une saison qui est longue, avec un chef d'orchestre qui était juste génial, et surtout un dirigeant qui était génial, parce que il fallait que le dirigeant ose décrocher le téléphone au début pour que je puisse rencontrer Daniel. Et puis surtout, laisse tranquille le coach, quoi. Et combien de dirigeants aujourd'hui se mêlent de tout et de rien en pensant qu'ils ont raison parce que c'est leur pognon ou je sais pas trop quoi et font l'équipe à la place d'eux. Mais ça, c'est comme dans les entreprises. Je fais pas confiance à mon directeur industriel parce que je suis le patron. Ouais, mais attends, mais c'est lui qui s'en occupe. Enfin, donc, il y a plein de similitudes par rapport à ça. Et moi, je dis que Gervais, là-dessus, a été quand même Fallait accepter de laisser les mains à celui qui est dans le moteur, quoi.
Bien sûr.
Donc voilà, c'était tout ça. C'est vraiment une alchimie collective parfaite. De dingue. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de dire dans ce livre, au sens où il n'y a pas de hasard, parce que c'est des choses qu'on peut reproduire dans d'autres univers professionnels. Voilà. Et je suis content d'avoir vécu.
Bien sûr, tout à fait. Bon, pour terminer, c'est bizarre. Alors, comment se procurer le livre ?
Ah bah alors, c'est simple. La manière la plus rapide, c'est, j'allais dire, n'importe quelle librairie. sur Internet, aujourd'hui, vous tapez, vous l'avez dans les 48 heures qui viennent. Ou si vous voulez l'acheter, vous allez au stade. C'est l'endroit le plus rapide pour tous les gens qui sont supporters de Lens. Et puis autrement, s'il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils me le commandent directement à moi. Et là, du coup, je leur fais une dédicace s'ils le souhaitent. Enfin, voilà.
Alors, justement, vous avez un compte pour les réseaux sociaux ?
Ah ben, c'est Stéphane Bijard. Stéphane Bijard, Facebook, LinkedIn, ouais, Instagram, voilà, ouais, enfin, ouais, tous les trucs tout, de jeunes, mais j'essaie d'être à la page, quoi.
Ouais, voilà. Tout à fait. Alors, est-ce que, disons, dernière question, vous projetez d'en écrire un nouveau sur l'histoire de Racing Club de Lens ?
Alors, déjà, je voudrais porter ce bébé-là, encore un petit peu, parce que ça fait que quelques mois. Et puis, merci à Lens, en plus, d'être plutôt bien portant, malgré tout. Parce que du coup, ça tombe bien au bon moment pour les gens. Et je pense que si, en tout cas, si... Bon, il faudrait qu'il y ait un autre Covid pour que je m'arrête 6 mois. Parce qu'il faut un peu de temps pour l'écrire, quand même. Puis, c'est pas ce qui me fait vivre, hein, parce que c'est pas... On gagne pas d'argent avec un livre aujourd'hui.
Non, mais vous êtes content de l'avoir fait aussi.
Ah, mais ravi.
Voilà.
Et donc, je pense que de toute façon, par contre, je sais que si j'en écris un autre, ce sera de l'ombre à la lumière de l'Europe.
Ah.
Parce que c'est raconter l'épopée européenne, quoi. Alors, pas forcément la saison suivante, mais c'est même tout ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu derrière 3-4 années de dingue, quand même, entre ce qu'on a vécu avec Daniel, mais ce qu'on a vécu aussi avec François. On a quand même été en demi-finale de Coupe d'Europe à l'époque, il faut le remettre en mémoire. On a regagné une Coupe de la Ligue. Enfin, il s'est passé encore plein de belles choses. Et à l'échelle européenne, qui a été, pareil, découverte, enfin, se retrouver dans tous ces stades mythiques européens, c'est autre chose. C'est encore une autre étape, quoi. Donc, voilà.
Ben, je vous remercie, M. Bijard, d'être venu, d'avoir pris de votre temps.
Et je voudrais une dernière chose, si je peux.
Allez-y. Henri,
c'est qu'en fait, le vrai titre du livre, De l'ombre à la lumière du Nord, ça c'est le vrai titre, mais le vrai titre, il est juste à la page antérieure. Voilà. Quelques pages après, c'est Ce que je regarde se développe. Parce qu'en fait, s'il y a une chose à retenir de ce livre, au-delà du sport, c'est ça. C'est en fait, dans ma vie, en tant que responsable, en tant que coach, où est-ce que je mets mon regard ? Est-ce que je mets mon regard sur des choses qui vont plutôt bien et j'essaie de comprendre pourquoi ça marche bien ? Et du coup, je vais cultiver ce qui fonctionne pour que ça soit encore meilleur. Ou est-ce que je passe mon temps à regarder ce qui ne va pas ? Et en ce moment, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe autour de nous, il y a des spécialistes pour nous dire qu'on va mourir et qui vous décrivent la merde du monde et tout ce qu'on est en train de vivre de plus... Sauf que je ne suis pas sûr que ce soit que cette réalité-là qui compte. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas. Mais pour moi, c'est ça le vrai message. Et en fait, Daniel, c'était ça. Au départ, lui, Daniel, regardait les défauts et ça ne nous est pas avancé. Et à partir du moment où on a regardé les qualités, comme par hasard, non seulement ça a avancé, mais ça a corrigé les défauts. Et l'idée, c'est ça. C'est ce que je regarde se développe. Posez-vous cette question-là, juste derrière vos oreilles. Là. Et à partir de demain, qu'est-ce que je regarde dans ma vie ? Qu'est-ce que je regarde chez l'autre ? Qu'est-ce que je regarde autour de moi ? Et si je regarde ce qui marche, ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui fonctionne, comme par hasard, j'aurai des chances de développer des trucs sympas. Si je regarde la merde, je regarde la merde. Et je la développe.
Ouais,
voilà.
Sûr.
Voilà le message.
Ouais. Merci à vous, ce Bijard, d'être venu.
Merci à vous de m'avoir proposé cette rencontre à Radio Plus. Je suis ravi de pouvoir intervenir et en plus de mettre en lumière aussi votre radio parce que je trouve ça génial. Merci.
Merci à vous. Merci. Au revoir.
Maintenant, on va continuer l'émission dans le plus traditionnel avec les résultats.
On va commencer aux Jeux Olympiques pour le biathlon. Je ferai que le biathlon, moi. Et ça a commencé donc samedi. Donc on est au troisième jour. La France a 3 médailles, 3 médailles d'argent jusqu'à maintenant. Donc le 5 février, c'était le Running Mix, 4x6 km, donc 2 filles, 2 garçons. C'est la Norvège qui a gagné avec Roseland, Eikhoff, Tarelli Bø, Johannes Bø en 1h06min45s et 6 dixièmes avec 3 tours de pénalité et 13 pioches. Deuxième, Chevalier Boucher, Anaïs, Julien Simon et Mia Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet qui ont terminé à 9 dixièmes, donc c'était au sprint, avec 3 tours et 11 pioches. Troisième, c'était l'équipe russe avec Nigatulina, Reskova, Loginov et Napinov à 1 seconde et 5 dixièmes, donc au sprint également, avec un tour de pénalité et 13 pioches. Les Suédoises ont terminé quatrième avec Anna Öberg, Elvira Öberg, Ponsilova et Samuelsson à 41 secondes, 13 pioches. Les Allemands, troisième avec Vogg, Hermann, Doy et Navrache à 1 minute 5 secondes et 5 dixièmes, avec 2 tours de pénalité et 18 pioches. Les Biélorusses avec Alimbekaeva, Sola, Latasbou et Smolky a terminé 5-6e, donc avec 1 minute 14 secondes et 6 dixièmes, avec 2 tours et 14 pioches. Et les Italiennes, parce que je dis les Italiennes, parce que Dorothea Vera avait... Non, Lisa Vettosi avait fait un premier parcours phénoménal. Elle avait passé le relais en tête, largement. Donc Vettosi, Vireur, Bormolini et Hofer ont terminé donc 9e à 2 minutes 39 secondes et 7 dixièmes, avec 2 tours de pénalité et 14 pioches. Ce relais sensationnel, bon, ça s'est joué au sprint. Donc le premier relais, c'était les Italiennes avec Vittozzi. Le deuxième relais, c'est un relais formidable de Julia Simon, qui avait parti du premier relais avec 1 minute et 23 secondes de retard. Elle a rattrapé tout le monde. Elle a passé en tête à l'issue de la fin du deuxième relais. Par contre, au troisième relais, c'est Loginov qui fait le meilleur parcours. Et dans le dernier relais, c'est Johannes Bø, le Norvégien, qui, franchement, a dominé tout le monde. Et il y avait 10 secondes de retard. Et il rattrape Quentin Fillon-Maillet. Et puis, bah, le Français et le Russe, donc, au sprint. Et aujourd'hui, ce matin, se déroulait l'individuel, femme sur 15 km. C'est Denise Herrmann qui a gagné dans un temps de 44 minutes 12 secondes. Et 7 dixièmes avec une photo tir. Deuxième, Chevalier Boucher Anaïs à 9 secondes et 4 dixièmes avec une photo tir également. Troisième, Martensbu Roseland, la Norvégienne, avec deux photo tir, meilleur temps de ski à 15 secondes et 3 dixièmes. Quatrième, c'est une Allemande, Voig, avec une photo tir à 16 secondes et 6 dixièmes. La Biélorusse Alimbekaeva a terminé cinquième à 31 secondes et 7 dixièmes avec également une photo tir. Tirer les coffres, elle n'est pas dans le top 10, et c'est Ingrid Tandevoll qui a terminé 8e, la Norvégienne, à 1 minute 2 secondes et 7 dixièmes, avec une photo tir. Que dire de ce parcours de biathlon là, c'est assez plat, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Par contre, c'est à tout vent, je ne sais pas si tu as vu le parcours, c'est à tout vent, et il fait entre moins 15 et moins 20 degrés.
Effectivement, oui.
Et il n'y a pas de neige, c'est tout neige artificielle. Ils ont utilisé 2 millions de litres d'eau pour faire la neige artificielle.
Ah, voyons.
Allez, je laisse à Lucas ou bien à toi pour finir la rubrique des Jeux Olympiques.
Bah, je vais la prendre pour commencer avec le ski acrobatique. Hein, la finale, on va commencer par les hommes. La médaille d'or pour Wahlberg, un Suédois. La médaille d'argent pour Kingsbury, un Canadien. La médaille de bronze pour Horishima. Et surtout les Français, hein, Benjamin Cavé. Et Sacha Théochary. Pour le ski de fond, le ski athlon féminin, Thérèse Juhang, norvégienne, médaille d'argent. Natalia Neprieva, une russe, médaille de bronze. Teresa, une autrichienne. Delphine Claudel, une française aussi. Et Coralie Benz. Pour le snowboard, on retrouve 12 qualifiés hein, dans le tour préliminaire, première manche et la deuxième manche. Donc une française, hein, Lucie Lefebvre. Et pour le ski alpin, Coralie, une française qui sortait du top 3, qui est revenue donc à la seconde place, puis à la troisième. Et puis là, du coup, est en tête du classement. Et également aussi le plus vieux médaillé de l'histoire du ski alpin, Johan Claret, qui est médaille d'argent en descente au JO de Pékin. On peut partir sur la page football maintenant avec William.
Tout à fait.
Parfait. Bah écoute, Lucas, je crois savoir que c'est toi qui vas commencer avec la Ligue 1. Donc, vas-y, je te donne la main.
Mais bien sûr. Alors, on a retrouvé des matchs ce week-end en partant de vendredi. Donc, Marseille face à Angers, victoire 5-2. Saint-Étienne-Montpellier, une belle remontada de Saint-Etienne hein, qui va un petit peu mieux, 3-1 face à Montpellier. Monaco, victoire 2-0 face à Lyon. Lorient, victoire 2-0 face à Lens. Nice, défaite 1-0 à Clermont. Reims, victoire 5-0 hein, face à Bordeaux. Rien ne va plus pour le stade bordelais. Strasbourg, victoire 1-0 face à Nantes. 3-0 face à Metz. Rennes, victoire 2-0 face à Brest. Et Lille a perdu 5-1 face au PSG hier. On va peut-être faire un petit point sur le classement. Donc toujours en tête, le Paris Saint-Germain, suivi de Marseille, puis Nice, Strasbourg, Rennes, Monaco, Montpellier à la 7e place, Lyon à la 8e, Lens à la 9e, Nantes à la 10e, Lille à la 11e, Angers à la 12e place, Brest 13e, Reims 14e, Clermont 15e, Troyes 16e, Lorient 17e, Metz 18e, et donc après, dans le trou, on y retrouve Bordeaux et Saint-Étienne. À toi maintenant, William.
Eh ben merci, Lucas. Maintenant, on va redescendre d'un étage et on va parler Ligue 2, voilà, en commençant par nos clubs de la région. On va commencer par Dunkerque, hein, qui a gagné, hein, pour se relancer un peu dans sa course au maintien. Dunkerque qui a gagné 1-0 grâce à un but de Rocheteau à la 73e. Puis du côté de Valenciennes, voilà, on a obtenu un point du nul face à Rodez, donc score de 0-0. Concernant les autres résultats de cette journée de Ligue 2, Bastia Pau 1 partout, Guingamp Auxerre 1 partout, Nancy Caen 1 partout, Niort-Le Havre 0-0, Quevilly-Rouen Grenoble 1-0, Sochaux Amiens 1 partout et Toulouse Dijon 4 buts à 1. Concernant le classement, voilà, les 5 premiers, il y a Toulouse, Ajaccio, Paris, Sochaux et Auxerre qui ferment la marche du top 5, voilà, mais ça reste quand même un classement assez ouvert. Et puis voilà, au rayon des équipes un petit peu mal en point, il y a Grenoble 18e place, Dunkerque 19e et Nancy 20e. Bon, ça reste quand même aussi ouvert là, même si Nancy conserve un gros écart dans le mauvais sens du terme sur ses poursuivants au maintien, donc voilà, ça semble mal barré pour Nancy, mais qui sait. Et concernant le calendrier de la journée, la 24e journée, pardon, il y a Valenciennes qui va accueillir Toulouse, donc gros match en perspective. Quant à Dunkerque va accueillir Rodez, donc voilà pour les calendriers de nos clubs du Nord.
D'accord. Et pour la nationale maintenant, Bourg-Péronnaz a reçu Avranches, victoire 2-0, Red Star, Briochin 1 partout, 7, Le Mans 0-0, Laval, victoire 1-0 face à Bastia Borgo, Châteauroux, victoire 4-1 face à Créteil, Sedan, victoire 3-1 face à Cholet, Chambly, 2-2 face à Orléans, Boulogne, notre club nordiste, 1 partout face à Annecy. Pour le point de vue sur le classement, Laval en première place, suivi de Concarneau, Annecy, Bourg-Péronnaz. Après, on retrouve aussi donc Châteauroux, Le Mans, Sedan, Cholet, Orléans, Avranches, Sète, Red Star, Briochin, Chambly. Et donc après, donc dans les dernières places, hein, 16e place Créteil, 17e place Bastia Borgo. Et donc dans le trou, 18e place notre club nordiste Boulogne. Et il va vite falloir se reprendre en main, même si c'est un petit peu compliqué.
C'est ça, voilà. Et maintenant, direction les championnats étrangers avec l'Allemagne et la Bundesliga. Au rayon des plus gros scores avec les grosses équipes, Dortmund a été défait 5-2 par le Bayer Leverkusen. Le Bayern de Munich a gagné 3-2 face à Leipzig. Augsbourg a gagné 2-0 face à l'Union Berlin. Et Cologne a gagné 1-0 face à Fribourg. Du côté du classement dans le top 4, il y a le Bayern, Dortmund, Bayer Leverkusen et l'Union Berlin. 5e place, Fribourg. Et enfin, pour terminer le top 6, il y a le FC Cologne.
Oui, exactement, William. Et donc, du côté espagnol, du coup, on va plus se pencher vers les plus grosses équipes. Donc, hier, se jouaient quelques matchs. Hein. Donc, Valence, Real 0-0. On a aussi Barcelone, victoire 4-2 face à l'Atlético Madrid. Hein, le Barcelone qui est bien revenu. Villarreal, victoire 2-0 face à Real Betis. Et victoire du Real de Madrid face à Grenade. Donc, pour le point de vue du classement, on a toujours en tête, hein, le Real, suivi de Séville, puis Betis, puis Barcelone. Et Atlético Madrid toujours dans le top 5. Et puis après, en dessous, on y retrouvera donc Villarreal. Et puis Atlético Bilbao, par exemple, en 8e place. Et donc, dans le trou, on y retrouve Sadix, Deportivo et Levent. Voilà.
Après, maintenant, partons direction l'Italie et la Serie A. La Juve a gagné 2-0 face à l'AS Vérone. L'Inter a perdu sur sa pelouse 2-1 face à l'AC Milan, avec notamment un doublé d'Olivier Giroud, le français. Naples a gagné 2-0 face à Venezia. Cagliari a gagné 2-1 face à l'Atalanta. Et la Lazio a gagné 3-0 face à la Fiorentina. Du côté du classement, les 6 premiers, il y a l'Inter, Naples, l'AC Milan et la Juve pour une place en Ligue des Champions dans le top 4. Cinquième place qui est occupée par l'Atalanta. Et enfin, la Lazio ferme le top 6 avec sa sixième place.
Et concernant du coup la première ligue, donc il n'y a eu qu'un match un samedi, Burnley face à Watford, donc 0-0, match nul. Et concernant du coup le classement, Manchester City toujours en première place, suivi de Liverpool, Chelsea, Manchester United. Et donc après on y retrouve donc à la sixième place Arsenal, et puis donc dans le trou on y retrouve Watford, Newcastle ou encore Burnley.
Et maintenant, pour finir, voilà, niveau résultat du foot pro masculin, on part chez nos voisins les Belges. Quelques résultats, Genk a gagné 2-0 face à Zulte Waregem, Anderlecht a gagné 4-1 face à Eupen, Bruges a perdu 2-1 face à la Gantoise, Antwerp a perdu 2-0 face à l'Union Saint-Gilloise, donc le leader, le Standard a fait match nul égalité 1 partout face au Cercle Bruges, et enfin Charleroi a gagné 2-0 face à Serein. Voilà pour les quelques résultats du côté des quatre premières classes qui sont qualificatives pour le groupe championnat, on appelle ça comme ça. Du côté de la Belgique, il y a la Royale Union Saint-Gilloise en leader avec 10 points d'avance sur le deuxième Antwerp, Club Bruges en troisième et enfin Anderlecht en quatrième position.
Et c'est vrai que j'ai oublié d'aborder tout à l'heure la journée 24 hein, pour la Ligue 1. Donc on retrouve vendredi le PSG face à Rennes. Ça va être un beau match. Hein. Montpellier qui reçoit Lille, Lyon, Nice. Samedi, Monaco, Lorient. On y retrouve aussi Angers, Strasbourg, Clermont, Saint-Etienne, Brest face à Troyes, Nantes face à Reims, Bordeaux va à Lens. Hein, donc Lens reçoit Bordeaux, Metz reçoit Marseille. Du coup, voilà.
Voilà, une belle journée de Ligue 1 en perspective et sur les autres championnats également.
Toujours en football, disons une féminine, deux résultats seulement concernant les clubs les meilleurs. Lyon a battu Bordeaux 1-0 et le Paris Saint-Germain a battu Guingamp 6-2. Donc au classement, Lyon et Paris Saint-Germain sont premiers en tête avec 36 points. Dans la deuxième division féminine, groupe 1, à noter que large victoire de Lens contre Weidenheim, qui a soigné son goal à Vrage par la même occasion, 5-0, et Lille dans le même temps a gagné à Strasbourg 2-0. Au classement, c'est le Havre et Metz et puis Nantes qui sont en tête avec 28 points plutôt, et Lens est 5e avec 23 points et Lille juste devant 4e avec 26 points. Lens peut être champion, à noter que c'est 3 points par match hein, gagné, il reste 9 matchs.
Hein, pourquoi pas
hein, voilà, être en division 1 féminine hein, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Hein. Voilà. Et puis donc, prochain match pour Lens à Metz, l'un des leaders, sera le dimanche 13 février à 14h30 et Lille recevra dans le même temps l'équipe de Brest. Voilà. Un mot de futsal, c'était la Coupe de France pour dire que Villeneuve d'Ascq a perdu à Mouvolide hein, dans le derby. 12-2, il n'y a pas photo, hein. C'est un changement de division, hein. Le Mouveau est dans l'élite et Villeneuve d'Ascq est en régional. Donc, et par contre, victoire de Lille n'a pas tremblé parce que Lille Futsal Métropole, des deux, a battu une R1, Charleville, non, Le Havre-Couville, sur score de 8-1. Voilà.
Et nous précisons également que c'est le Sénégal qui est venu à bout de l'Égypte hier pour le compte de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, il y a eu un pénalty raté de Mané à la 7e minute et puis les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, 0-0 au bout du temps réglementaire et au bout du temps additionnel et des 120 minutes. Et c'est finalement au tir au but que le Sénégal l'a emporté grâce à un pénalty victorieux cette fois de Sadio Mané.
Est-ce qu'on parle basket vite fait là?
Allons-y.
Alors, on va donner la journée de championnat pour dire que c'était la... on n'est pas totalité, mais c'était la 18e journée. Chopin Basket a battu l'équipe de Fos-sur-Mer 80-72. Le Portel a battu l'équipe de Paris Basket sur score de 65-57. Notez qu'il y a eu un moment 6 minutes sans marquer de points de la part des deux équipes. Bourg-en-Bresse a perdu chez lui devant contre Portez. Portez a donc gagné à Bourg-en-Bresse 83-73. Cholet a battu Roanne 86-76. Limoges a battu Nanterre 77-65. Orléans a perdu chez lui contre Dijon, victoire de Dijon 77-66. Lasvel a battu l'équipe de Strasbourg 86-81.
Boulogne-Valois, Luder a battu l'équipe de Le Mans 82-69. Et hier soir se déroulait le match entre Monaco et le BCM. Monaco qui avait gagné contre ces deux matchs de Euroleague la semaine dernière, qui a donc battu le BCM. Il y a eu deux mi-temps, Monaco. Une première mi-temps où à la mi-temps ça faisait 38-37. Pas beaucoup de points à marquer, notamment dans le deuxième quart-temps, 14-18 pour le BCM. Mais au troisième quart-temps, s'est réveillé Monaco, parce que le coach d'armes y a donné de la voix. Et il a fait un troisième quart-temps phénoménal, 34-21. Et victoire finale, 97-85, 12 points d'écart. Notez qu'il y avait 11 joueurs monégasques contre 8 joueurs gravinois. Il marquait quand même dans l'effectif gravinois Marcus Reed, qui est blessé à la voûte plantaire et qui n'a pas joué le match précédent à Orléans, qui avait perdu également. Et ils auraient joué le même match qu'ils ont fait à Monaco à Orléans, ils auraient gagné. Malheureusement, Brompton Taylor, il s'est réveillé qu'à la 32e minute de jeu. Il a marqué ses premiers points à la 32e minute. Donc, et de la 32e à la 40e minute, il marque 11 points. Ouais, donc, voilà. Bon, et le Portel, lui, pas mal, parce que deux victoires en cette semaine, la semaine dernière plutôt. Donc, victoire du Portel, 65-57 pour Paris Basket. Au classement, c'est Boulogne-Levalois qui est en tête. Deuxième, Monaco. Troisième, l'Asvel. Quatrième, Le Mans. Et le BCM, rétrograde, avec ses deux défaites, et dixième. Et le dernier n'est plus le Portel, mais la Fosse-sur-Mer. Allez, on va dire que Liévin a battu Longos. Ouais, on peut le dire.
La deuxième victoire consécutive pour la nationale de Liévin pour le match de carnaval. Victoire 75-61 face à Longos. On retrouve le BCL qui reçoit Vanves le 19 février à 20h, donc dans la salle de Liévin.
Dans l'Halle Vésillier. Hein.
C'est ça.
Un mot de volée pour dire que les garçons de Arne en marchant au tard, parce que c'était normalement le week-end d'avant, mais Lyon avait des cas de Covid, donc avait demandé de reporter le match, le leader. Donc il jouait à Arne ce week-end, samedi. Et Arne a gagné 3-7 à 2. Ils ont perdu le deux premiers sets 25-23 et 25-18. Ils ont gagné les trois autres 25-21, 25-23 et au tie-break 15-11. À noter que volley féminin en élite féminine, c'est le match pour la première place de la première phase. Première phase, ça se jouera entre Mougins, qui est souvent en Ligue A féminine, mais donc il est en élite cette année. Et il jouera à Arles, en est deuxième à deux points. Donc, étant donné qu'un match gagné, c'est trois points. 3-0 ou bien 3-1, c'est trois points. 3-2, c'est deux points. Et vice-versa, c'est un point ou bien zéro point. S'ils gagnent 3-0, sur premier de la phase régulière, ils auront le titre de championne de France par rapport aux trois premiers de l'autre groupe. Voilà. Alors, si vous voulez voir le match, c'est samedi prochain à 19h à la salle Maréchal, entrée gratuite, mais passe vaccinale obligatoire et buvette et restauration, il n'y en a pas, théoriquement.
Ah, il n'y a pas de buvette aussi.
Ah non, jusqu'au 15, dans toutes les salles, même en BCM, tout ça, il n'y a pas. Hein. Notez que j'ai eu le président du BCM à la fin de ce match contre Monaco. Et il ne faut pas trop l'embêter pendant 15 jours, trois semaines maintenant, presque. Parce que, pas que les résultats, c'est pas ça, mais il s'en va à Mayotte, parce qu'il est sélectionneur de l'équipe nationale là-bas à Mayotte. Mayotte, tu sais où que c'est quand même?
Bien sûr.
C'est entre Madagascar et...
À côté de Tourcoing.
Non, Mayotte, c'est côté, dans une île à côté de Madagascar et puis dans l'océan Indien. Voilà. Donc il s'en va trois semaines, quinze jours, tu vois, il démarre, il s'en va vendredi, il prend l'avion vendredi. Et chose que là-bas, s'il fait 0 degré vendredi, il fera là-bas 35 degrés à Mayotte.
Ah oui, c'est sûr.
C'est un peu la même.
On partira avec lui.
Éventuellement, à la Serre League, c'était la reprise après le championnat européen. On va donner les résultats. Le Paris Saint-Germain recevait Dunkerque. Ils se sont pas mal débrouillés à Dunkerque quand même. J'ai vu ce match, c'était télévisé. Donc, victoire de Paris Saint-Germain 38-30. À noter que dans l'équipe de Dunkerque, Tom Payot fait fort parce qu'il a marqué 8 buts sur 8 tirs tentés. du 100%. C'est Sorène et Nîmes, match nul 24 partout. Victoire de Limoges à Nancy, 29 à 27. Victoire de Aix-en-Provence à Chartres, 32 à 31. Victoire de Chambéry à Créteil, 31 à 29. Victoire chez lui de Montpellier contre Saran, 26 à 22. Toulouse a battu l'équipe de Istres, 30 à 25. Et Saint-Raphaël a perdu dans sa salle contre l'équipe de Nantes, qui a donc battu Saint-Raphaël à l'extérieur sur le score de 36 à 27. Au classement, le Paris Saint-Germain premier avec le maximum de points, 14 matchs, 14 victoires. Deuxième, l'équipe de Nantes avec 3 défaites. Et Dunkerque, lui, est 13e avec 10 points. Avec 5 victoires et 9 défaites. Le dernier étant Nancy avec 4 points, 2 victoires et 13 défaites. La prochaine journée, ce sera Dunkerque qui recevra l'équipe de Montpellier. Ce sera le dimanche 13 à 15h30. Voilà. Alors, pour dire que. Allez, on va parler de cyclisme. Hein. On va parler de rugby.
Ok.
Alors, le rugby, c'était l'ouverture du tournoi des 6 nations. Alors, est-ce qu'on peut donner les résultats de cette première journée? Notez que l'équipe de France a battu l'équipe d'Italie. Ça n'a pas été simple en même temps. Hein. Mais ils ont gagné quand même avec sac hein. 37 à 10. Bon, donc victoire avec le bonus offensif. Hein. Donc, les autres résultats, l'Écosse a battu l'Angleterre 20 à 17. L'Irlande a battu l'équipe de Galles 29 à 7 au classement avec le goal average particulier. L'équipe de France est première avec 5 points. Deuxième, l'Irlande avec 5 points également. L'Écosse est troisième avec 4 points. L'Angleterre, quatrième avec 1 point. Ferme la marche. Le Pays de Galles et l'Italie avec 0 point. La prochaine journée sera le samedi 12 février où on aura l'équipe de Galles, du Pays de Galles qui rencontre l'Écosse. Ce sera 15h15. L'équipe de France qui jouera le même jour le 12 février mais après ce premier match à 17h45, et le dimanche à 16h, on aura l'Italie qui défiera l'Angleterre pour la dernière place, étant donné qu'ils ont 0 points tous les deux. Donc voilà, l'équipe de France qui vise le grand chelem cette saison. Ça n'a pas été simple en premier temps, hein. J'ai pas vu tout le match, mais ça n'a pas été simple. L'Italie a le mené hein, deux fois. Hein. Et, comme quoi, hein, voilà. Bon, voilà. Alors en cyclisme. On peut dire quand même que une grande semaine pour Thomas, le coureur de la Cofidis. La Cofidis qui a remporté 3 étapes, Brian Cocker et Thomas, la semaine dernière, à l'étoile de BCF. Et Cocorico pour Benjamin Thomas qui remporte cette épreuve, l'étoile de BCF, pour l'équipe de Cofidis. Bon, ils sont bien partis. Voilà, ils ont fait 3 places le premier pour un début de saison cycliste, c'est quand même pas mal. Je vois qu'en natation, il y a une nageuse qui m'intéresse. Je sais pas quand lu la Gazette, mais je découvre en même temps que toi. Retour intéressant pour Cyrielle Duhamel. C'est la Golden Tour Camille Mufort à Nice, où Florent Brindou a fait une bonne performance, mais elle a gagné l'épreuve du 400 mètres 4 nages. Bon, c'est quand même pas mal. Bon, elle a fait quand même, et puis elle a battu son record au 50 mètres papillon, et également au 50 mètres brasse. Bon, donc elle revenait de blessure, et puis elle a eu deux fois la Covid hein, aussi. Hein. Elle prépare les championnats du monde, les championnats d'Europe, et puis surtout les Jeux Olympiques de Paris 2024. Voilà, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Bon, dans un proche avenir, j'espère avoir dans les studios Sarah Mbarek, la coach du cycle danse féminin.
Espérons.
Elle viendra avec deux joueuses théoriquement. Voilà.
Ah bah, donc, super.
J'ai rentré en communication avec elle, c'est quand même bien parti.
Voilà. Une belle exclusivité pour les auditeurs de Sport Plus.
Voilà, allez, sur ce, bonne semaine à vous, faites encore très attention, bonne fin de soirée, et puis on se donne rendez-vous, Lucas et William, la semaine prochaine.
Rendez-vous pris.
Allez, bye bye, portez-vous bien.
Au revoir.